Tournez la page, votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Bonjour à tous et à toutes pour votre émission. D'abord, bienvenue sur l'antenne si vous la prenez un instant. Radio Kodeshuka, votre radio pour votre émission littéraire. Tournez la page avec quelques petites minutes de retard. Notre invité n'est pas arrivé, mais il arrive bientôt. Et oui, aujourd'hui, je reçois Christian Richard, auteur notamment de livres sur la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des biographies. Voilà. Et puis, en attendant notre invité, eh bien, je vous propose une petite pause musicale avec Michel Delpech, le chasseur.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux les champs montaient dans les nuages, la forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait.
La page, votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Eh oui, Michel Delpech avec Le Chasseur, qui a été d'ailleurs l'hymne de la Fédération française de chasse pendant très longtemps. Michel Delpech, eh bien oui, qui nous a quittés lui aussi. Toujours est-il que dans quelques minutes, nous allons recevoir, donc, il n'est pas encore arrivé, notre invité Christian Richard, bien connu lecteur, ah ben voilà, il arrive. On va le laisser s'installer gentiment. Voilà. Bonjour Christian. Vas-y, vas-y, tu peux parler, c'est ouvert.
Bonjour.
Voilà. Ah oui, les vedettes, ça se fait toujours attendre. Hein.
Bah, disons que j'ai eu un imprévu.
Voilà, bah, ça peut arriver, hein, ça existe. Ça existe, les imprévus.
Bah, ça m'arrive de temps en temps, mais là, c'était pas le moment.
Bah, voilà. Non, mais il en faut aussi, parce que la vie serait monotone.
Oui, t'as raison.
Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc...
Je n'ai pas entendu ce que tu as dit.
Alors, je disais que tu étais auteur aussi, enfin, d'ouvrages de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des biographies. Mmh. Tu avais fait celle de Monsieur Gonzague de Chalin, si
tout, mais, toujours en tout, lien avec la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, oui, je sais. Oui. et aussi Toula, je crois.
Toula, bah, dans le même ouvrage, oui. Gonzague de Chalin et Toula, Jean Toula, qui était le frère, pour que le Chevillois le situe bien, le frère du notaire, parce que c'est lui qui était le plus connu sur Chevigny.
Oui.
Voilà.
Et puis Gonzague de Chalin, qui était un militaire.
Alors, colonel Gonzague de Chalin, effectivement, qui a fait une carrière politique comme maire et comme conseiller départemental, maire de Gindres et conseiller départemental de la Vienne, et qui était quelqu'un de très estimé.
Oui.
Et c'est pas par hasard s'ils sont tous les deux dans le même bouquin. La biographie de Toula et la biographie de Chalin.
C'est le dernier ouvrage que tu avais sorti?
Non, c'est l'avant-dernier.
L'avant-dernier. Le dernier, c'est...
Alors, le dernier, c'est sur les maquis et la presse clandestine.
Ouais. Oui, c'est...
Ou la presse clandestine des maquis, plutôt.
Ah, oui, ça a existé, ça. Oui. Des fois, on n'en parle pas trop, de ça. Mais,
On n'en parlait pas du tout, même.
Ben, ouais, ouais.
C'était quelque chose qui était resté un petit peu oublié des sujets qu'on pouvait travailler sur la Deuxième Guerre mondiale, et moi je suis tombé là-dessus comme ça, quoi.
Alors, ton premier ouvrage, c'est en quelle année, ça? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire sur le thème de la Seconde Guerre mondiale?
Alors ça remonte loin, ça remonte à une trentaine d'années.
Ah oui, quand même.
Oui, j'ai commencé à m'intéresser à... Et puis c'est surtout par l'archéologie, alors le... En fait, c'est pas venu par hasard, c'est venu avec l'archéologie d'une manière générale, où je faisais de l'archéologie aérienne, c'est-à-dire utiliser les avions de l'aéroclub avec leurs pilotes, hein, moi je ne
connaissais
pas, puis faire de la recherche par prospection aérienne de sites archéologiques, mais ça c'est un autre sujet. Et par l'intermédiaire de ça, j'ai fini par tomber sur un bombardier qui était tombé à côté de Persac, tout simplement, un bombardier américain... Et on m'a mis là-dessus, je me suis mis là-dessus, parce que c'était un avion, quoi, en fait. Mm-hmm. Je me suis intéressé, du coup, à la guerre aérienne. Et mon premier bouquin, c'était sur la guerre aérienne dans la Vienne.
D'accord. Voilà.
Et il y a une trentaine d'années, quoi, maintenant. Mm-hmm. Et puis après, on met le doigt dans un engrenage, mm-hmm. et on y passe tout entier.
Tout entier. Alors, le premier livre...
Il n'y a plus que les orteils qui ne sont pas passés.
D'accord. Le premier livre, c'était donc sur l'aviation?
C'était sur la guerre aérienne dans la Vienne, oui, absolument. Et qui avait été édité par la Société archéologique de Chevigny, d'ailleurs. Mm-hmm. Puis après, y a eu toute une suite, hein. J'en suis rendu à mon 12e bouquin maintenant sur la Deuxième Guerre mondiale.
Mmh. Oui, mais il y a plusieurs thèmes.
Plusieurs thèmes, plusieurs des biographies, des sujets divers, mais toujours sur la Vienne.
D'accord.
Toujours sur la Vienne.
Et puis ce qu'on peut lire aussi, c'est que Tercé, puisque tu es le maire de Tercé, alors on suit toi parce qu'on se connaît bien, il y a un musée de la Seconde Guerre mondiale.
Alors le musée de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne, c'est le musée de la Seconde Guerre mondiale dans la Vienne.
Oui, il n'y en a pas d'autre.
Donc, il y a deux autres musées dans la Vienne, mais plus thématiques, mais qui sont tout aussi intéressants d'ailleurs. À Scorbé-Clairvaux, monsieur Jugé, le maire de Scorbé-Clairvaux d'ailleurs, un musée qui est thématique aussi, il est sur le général de Gaulle. Mmh. Et c'est tout, quoi, pour le moment.
Oui, mais c'est sur un personnage.
Ah oui, mais enfin, il développe un petit peu quand même l'histoire, mais c'est surtout sur... c'est vraiment un passionné du général de Gaulle, et avec la guerre, quoi, bien entendu.
D'accord. Et tu as dit qu'il y en a un autre encore?
Non, c'est tout.
Non, vous êtes comme... Enfin, toi, celui, il est consacré sur le...
Sur la deuxième... Moi, c'est la Deuxième Guerre mondiale dans la Vienne, avec tous les sujets de la déclaration de la guerre jusqu'à la libération.
Voilà. Et donc, on peut voir la ligne de démarcation, tout un tas de choses, et les uniformes...
C'est à travers la ligne de démarcation. Moi, en fait, très rapidement, je suis arrivé sur la ligne de démarcation qui traverse la commune.
Oui.
Parce que je traverse la Vienne du nord au sud, et donc elle passe à Gindres, à Bonne, à Pouillé, pour les communes qui touchent notre secteur, et Tercé, et donc voilà. Et puis il se trouve que j'ai quelqu'un de ma famille maternelle qui a travaillé là-dessus, enfin non, qui a travaillé, pardon, sur la ligne de démarcation pendant la guerre.
D'accord. Et le musée est ouvert au public ?
Un musée public, il est gratuit.
Ah oui, ah, c'est une entrée gratuite.
Toujours gratuit, et on met ce qu'on veut dans un tronc à côté.
D'accord, ok. Voilà. Et puis on peut le dire, il est situé juste à côté de la médiathèque.
Il est à côté de la médiathèque, dans des locaux communaux. D'accord. C'est pour ça qu'il est gratuit, c'est-à-dire que la commune a fait un effort en même temps qu'elle a construit la médiathèque et elle a construit le musée. Et donc, on n'a pas de loyer, bien entendu, comme toute association.
Oui, c'est bien.
Et on préfère le faire à ouverture gratuite, à partir du moment où on n'a rien à payer en tant qu'association. Voilà. Bah, donc, ça nous sert à nous, le peu que les gens mettent dans un,
ouais,
dans un tronc, à acheter des ouvrages, à acheter... on n'achète pas d'objets, en principe. Les objets nous sont donnés.
Oui, des collectionneurs qui vous...
Non. Ah non, les collectionneurs ne donnent pas leurs objets.
Oui, ouais, je m'en doute. C'est pour ça que je voulais te faire intervenir sur le sujet.
Non, ça
n'a rien. Des particuliers.
C'est des particuliers qui ont dans leur, chez eux des choses qui datent de la Deuxième Guerre mondiale et qui nous les donnent, quoi.
D'accord.
Alors aujourd'hui, ça vient de leur grand-père ou de leurs parents, pour les plus anciens. Mais voilà, c'est comme ça que la collection s'est étoffée et qu'on a... On a pas mal d'objets, on arrive à 2000 objets enregistrés dans l'inventaire.
Ah oui, quand même.
Oui.
Oui, puis vous faites des expos, des choses comme ça aussi.
Alors, on s'est donné depuis qu'on est dans les nouveaux locaux, donc où il y a une salle d'exposition dans l'ensemble, on va dire l'ensemble immobilier où là, la médiathèque et le musée. On a fait un troisième secteur, c'est une salle d'exposition qui est consacrée 12 mois sur 12 à des expositions qui sont pour la plupart initiées par la médiathèque de Tercé. Et une fois par an, on crée, nous, une exposition du musée. C'est-à-dire que maintenant, depuis qu'on est là, ça fait 10 ans, on a une dizaine d'expositions sur des thèmes différents. Alors, les expositions, ça développe un tout petit secteur du musée. Ouais, par exemple, la ligne de démarcation qui a 5 panneaux dans le musée, on a fait une exposition de 25 panneaux. Voilà. Et on la met à disposition gratuitement de qui veut l'emprunter.
Alors, c'est pour ça que je faisais une petite aparté, parce que quand même c'est une petite commune rurale, Tercé, vous avez quand même un musée et une médiathèque. Et donc c'est quand même... vous êtes combien d'habitants à Tercé ?
Pas loin de 1200.
Oui, c'est pas énorme, donc c'est quand même bien d'avoir un musée...
On a été très aidés, et à une époque où c'était faisable encore, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on n'y arriverait pas.
Eh bien écoutez, on fait une petite pause musicale avec un certain Joe Dassin et son tube de 1974, L'été indien.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. chantera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Eh oui, gros succès de Joe Dassin, 74, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Eh bien, mon cher Christian, nous allons parler, après cette petite aparté pour le musée médiathèque, de vos ouvrages. Donc, le premier, on a dit, c'était il y a 30 ans, c'est ça?
Oui, il y a 25 ans à peu près. Ouais, 25,
alors,
30 ans.
Combien de livres par an?
Ah non, pas par an.
Par an, non.
Hein, tous les deux ou trois ans.
Tous les deux ou trois ans. Ouais. Oui, c'est quand même de la préparation, il y a des recherches, il y a...
Bah, oui, mais enfin, souvent, quand on fait une recherche sur un sujet, on a plein de choses sur les autres sujets. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on finit par avoir plein de dossiers. Et qu'après, il suffit de se coller sur un de ces dossiers et puis d'avancer, quoi. Voilà.
D'accord.
Ce qui a été le plus long, c'est probablement celui sur la ligne de démarcation. Parce que là, c'était un très gros sujet. Mais à partir de ça, justement, en rayonnement, on arrive sur les autres, quoi.
Mais on a parlé tout à l'heure de biographie, t'as pas fait que deux biographies, enfin, sur ces deux personnages, t'as fait d'autres biographies, non?
Ah non, pas vraiment, non. C'est surtout des trucs événementiels.
Donc on a parlé tout à l'heure de la ligne de démarcation, on avait parlé de l'aviation.
L'aviation, alors la guerre aérienne a pris beaucoup de choses, donc ça c'est un gros bouquin. Après, il y avait l'un des derniers, c'est Le Chouan. Le groupement Le Chouan.
Oui.
Y a d'ailleurs des articles dans les journaux qui parlent en ce moment à propos du baron Reissoult à Lussac, sur le groupe Le Chouan. Mm-hmm. Ce livre-là regroupait plusieurs maquis, donc en même temps que c'est Le Chouan, j'ai eu la chance d'avoir un carton d'archives qui m'a été donné par le détenteur d'un ancien du groupement Le Chouan, du groupe Le Chouan, et ça m'a permis d'en faire un bouquin, quoi. Mais enfin, en biographie, le premier ouvrage, c'était une biographie, parce que ça concerne Chevigny de très près, c'était Gachard, Raoul Gachard.
Ah oui, il me semblait bien que tu avais fait une autre.
Parce que là, à ce moment-là, je faisais de l'archéologie, quand je vais travailler en même temps ce sujet-là, et ça m'a fait prendre un peu conscience que... Il y avait un travail à faire sur la Deuxième Guerre mondiale par rapport à ça, quoi. Pour le secteur, en tout cas.
Il y a encore matière à travailler.
Oh, la matière, elle est inépuisable.
Inépuisable, ouais.
suffit de s'y mettre et puis d'aller aux archives ou de faire des enquêtes afin de travailler sur le sujet, quoi.
Ouais. Donc, combien d'ouvrages en tout, là, depuis le premier ?
Ben, depuis le premier, sur la guerre aérienne, il y en a 12.
12, c'est déjà pas mal. Ouais. Tous les 2-3 ans, c'est bien. Surtout que c'est des bouquins qui sont quand même...
Je suis incapable de réciter comme ça.
Non, mais on va prendre les titres. De toute façon, ils sont accessibles en salon, en librairie.
Alors, les deux tiers sont épuisés. C'est-à-dire qu'on peut les trouver en bibliothèque ou...
En bibliothèque.
Ou en... Un paradoxe, j'ai des petits-enfants.
Oui.
Et j'avais commencé à mettre de côté un ouvrage... Enfin, une série pour chacun d'eux plus tard.
Ouais.
Et maintenant que j'ai 7 petits-enfants, il me manquait 2 ouvrages.
Ah.
Que moi, j'avais plus. Mince. Enfin, j'en avais assez, mais il m'en manquait 2.
Ouais.
Et donc, j'ai été obligé d'acheter sur Internet, acheter mes propres livres pour compléter.
ça, c'est vache.
Pour compléter la série, pour. Voilà. Donc, quand c'est épuisé après. Alors, je sais que sur la ligne de démarcation, Geste Édition en a retiré d'autres. Et là, il y en a encore dans le commerce. Mais. Sur des ouvrages très limités comme ça, local, sur le plan local, c'est rare quand il y a des rééditions.
Oui.
Après, quand il est épuisé, il faut se débrouiller pour en trouver, quoi.
Oui, mais enfin, c'est pas non plus des petits livres, c'est quand même des livres de 300 ou 400 pages.
Ah bah, oui, à peu près la moyenne, oui.
Voilà. Et donc, accessible à tous au niveau tarif, ouais.
Bah, ça tourne toujours autour de 20-25 euros, ouais. Donc c'est accessible à peu près à tout le monde. Enfin, c'est le prix des livres dans les librairies, hein.
Ouais.
Puis en lecture accessible à tout le monde.
D'accord. Alors ça, c'est bien, parce que oui, il ne faut pas que ce soit trop technique, parce qu'après, les gens décrochent. Donc, voilà. Et tu fais des dédicaces aussi dans des librairies, dans des.
De temps en temps un peu ? Oui, dans les librairies, dans les salons du livre.
Oui. Alors, justement, on va en parler, parce que dans l'agenda des salons, il y a Collection Passion, où tu es présent, puisqu'il y a un petit pôle livre, où d'ailleurs, plusieurs auteurs sont présents.
Je crois qu'on y sera ensemble.
Oui, le Fictavien Éditeur y est aussi, oui, je dédicacerai aussi mes ouvrages. Moi, c'est sur la première, hein, donc voilà. Bah oui, mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale, donc c'est Lettres de guerre.
Oui, là-bas, il n'y a pas de thème.
Non. Et puis, de toute façon, c'est généraliste, hein, donc moi, j'aurai aussi les auteurs avec moi. Mais c'est quand même 2 jours complets, voilà, on va avoir du monde. Hein,
normalement, il y a du monde, oui.
Ouais, il y a du monde, la Collection Passion. Ouais. On est à l'abri, en tous les cas, il fait mauvais.
C'est clair.
Quoique, je crois qu'il fait beau ce week-end, mais bon, avec tout ce qu'on voit en ce moment, ça change tellement vite que on est content d'être à l'abri quand même. Hein.
C'est vrai.
Et puis également, tu seras présent le 3 novembre au Salon de la littérature généraliste à La Une, salle de spectacle à Saint-Benoît, dans le Grand Poitiers d'ailleurs, où là il y aura à peu près une cinquantaine d'auteurs avec des éditeurs, associations d'édition qui seront présents. Donc c'est un des 2 gros salons avec Chauvigny, qui aura lieu Chauvigny. Ça aura lieu d'ailleurs le 19 janvier 2025. Ah oui, ça a été avancé. Avant, c'était en mai et en avril. Après, comme la salle de spectacle ferme maintenant en avril, ça avait été en mai. Et puis maintenant, ils nous ont décalé. On est en janvier. Alors, on verra bien. Le salon des auteurs régionaux. Pareil, une cinquantaine d'auteurs, éditeurs et des fois les artisans du livre d'ailleurs. Quand on peut avoir un relieur, des choses avec du papier, des bijoux, des choses de pliage, c'est bien. Mais il y en a de moins en moins. Ils sont tous partis dans d'autres régions. C'est difficile. Et puis, il y a aussi, en fin novembre, il y a un petit salon qui est premier à Senon-sur-Vienne. Je ne sais pas si tu connais. Non, voilà, je le dis. C'est le 30, c'est organisé par la mairie et la bibliothèque.
En 2025
Non, le 30 novembre 2024.
Ah, non,
voilà, c'est un nouveau salon à côté de Châtellerault, c'est bien. Voilà. Eh bien, écoute, on va arriver bientôt à terme de l'émission. Pas de prochain livre, enfin, t'as pas une idée de prochain livre en préparation, là ?
Alors, maintenant, je commence à avoir un peu de recul, donc je sais un peu comment je fonctionne. Mm-hmm. Puis là, finalement, ça se passe exactement comme d'habitude, maintenant. Quand j'ai un bouquin qui sort, en général, pendant les 3-4 mois qui suivent, je me consacre à ce livre qui vient de sortir, donc des signatures, des choses comme ça, comme tu disais tout à l'heure. Et,
la promo, quoi.
Et puis, c'est une phase de réflexion qui peut durer jusqu'à 5-6 mois, sur ce que... Alors, j'ai toujours quelque chose sous le coude. Donc là, je suis en train de réfléchir à ce que je vais être, ce que je vais faire le prochain coup. Je commence à avoir une idée. J'avais deux, trois pistes. Et là, maintenant, je commence à me diriger vers une piste. Je pense que ça va être celle-là.
Oui.
Mais je ne sais pas si je dois en parler, mais bon. Je n'aime pas trop parler de ce que, ce que je fais au départ, mais ça va tourner autour des maquis, ça c'est sûr.
D'accord. Ok. Bah, il y en a beaucoup dans la région.
Ah ben, le sud de Vienne, moi quand je parle des maquis, c'est le sud de Vienne. Hein,
ouais.
Parce qu'il y a vraiment une coupure entre le nord et le sud de la Vienne. Hein,
ouais. Ah oui.
Une espèce de... Enfin, nord et sud-est, quoi. Mm-hmm. Le nord de la Vienne est juste le sud-est, la moitié sud de la Vienne, quoi, en gros. Hein. Ben oui, parce que finalement, la Vienne est coupée par une zone de plaine, de grande plaine, ouais. Le Châtel-Rodel, le Neuvillois, etc., jusqu'aux Deux-Sèvres. Et on ne pouvait pas avoir de maquis dans ces secteurs-là. Les maquis, il leur faut des zones boisées.
Oui, c'est mieux.
Il faut des bois, des forêts, etc. Donc, il y a les maquis du nord autour de la forêt de Sévol. Et puis après, comme il y a beaucoup de bois et beaucoup de couverts dans le sud de Vienne, il y a une cinquantaine de maquis qui se sont développés.
Ah oui, quand même.
Ah oui, oui. En tout, il y a 52 maquis homologués dans la Vienne.
Ah, il y a de quoi faire, alors.
Alors, c'est classé par groupement. Mm-hmm. C'est-à-dire que le groupement Le Chouan, par exemple, regroupe 7 maquis.
Ah oui.
Mais c'est un classement hiérarchique qui a été fait pratiquement à la fin de la guerre, quoi. Mmh. Voilà. C'est un peu pour que tout le monde se retrouve, enfin à la fin de l'occupation dans la Vienne, quoi.
Et il y en a qui ont tenu jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui ont été décapités, enfin je veux dire qui ont
été... Ah ben oui, oui. Les maquis, ça s'arrête début septembre dans la Vienne. Hein. Mmh. La Vienne est libérée, il n'y a plus de maquis dans la Vienne à partir du 5 septembre. Mmh. Tous les effectifs des maquis, dont les chiffres sont très variables, c'est entre 6 et 8 000 hommes, peut-être 5 000, peut-être 8, on n'en sait trop rien exactement. Tous les noms n'ont pas été inventoriés à la sortie.
Et puis il y en a qui ont été tués aussi quand même.
Très peu, il y a eu environ 300 morts, c'est tout. Hein.
Ah oui, sur le total, oui.
C'est quand même pas mal déjà.
Mais sur le total, c'est...
Mais sur le total, oui, ouais. Oui. Non, très peu, il y a eu des blessés aussi, puis tous ne sont pas entrés en contact avec les Allemands.
Ouais.
Ils étaient là un petit peu comme des gardiens. En fait, ça a surtout servi, et là c'est une très bonne chose, ça a été presque un pré-recrutement pour reconstituer l'armée française sur le front de l'Atlantique.
Ouais.
Parce qu'une très grosse partie des effectifs, une petite partie sont rentrés chez eux.
Oui.
Des maquiseurs qui avaient entre 45 et 50 ans, ou 60 ans pour certains, il y en avait. Ils sont évidemment rentrés chez eux, il y en a qui étaient pères de famille et tout ça, oui. Tu vois.
Mais les plus jeunes.
Mais dans les jeunes, ils ont été vivement encouragés à signer, pour aller constituer les régiments de reconstitution de l'armée française dans l'Ouest. Donc, le front de essentiellement Saint-Nazaire, La Rochelle et Royan, ouais. pour ce qui est dans notre secteur. Voilà. Ouais. Et là, c'est un domaine qui était peu connu, mais que maintenant, quand on commence à... Ouais,
ça avait pas un peu chauffé, quand même, à Royan et tout ça, là ?
Ah, si, si. Même à Saint-Nazaire et même à La Rochelle, quoi. Ouais. Hein. Mais les Allemands se sont enfermés, ils ont formé les poches, ce qu'on appelle les poches, puis ils ont attendu, tout simplement, que ça se termine le 8 mai 45, quoi. Mais de temps en temps, il y avait des escarmouches, et de temps en temps, il y a eu des morts. Ouais.
Donc là, t'as de quoi faire plusieurs tomes.
Comment ?
T'as de quoi faire plusieurs tomes.
Ah oui.
C'est ce que s'il y en a une cinquantaine, t'as de quoi faire plusieurs ouvrages sur le thème.
Écrire l'histoire d'un maquis, ça prend pas forcément un bouquin. Hein. Mmh. Parce que tous sont plus ou moins documentés.
Mmh.
Plutôt moins que plus, malheureusement. Parce qu'ils étaient pas là pour faire du papier quand ils étaient en activité, c'est évident. Mais après, il y a des choses qui ont été écrites. Ouais, je pense que mon projet va sans doute être sur la chronologie de l'activité, c'est-à-dire ce qui s'est passé tel jour pour l'ensemble des maquis.
D'accord.
On prend par exemple le 14 août. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé dans le sud de Vienne ce jour-là ?
D'accord.
Quel maquis a agi ?
D'accord. Okay.
Et comme ça, reconstituer l'activité des maquis, non pas avec une histoire qui leur est propre à chaque maquis, mais une histoire chronologique.
D'accord. C'est-à-dire, donc ça, la sortie prévue dans quelques années.
Oui, ça va être long, ça va demander un certain temps.
D'accord. Eh bien, écoute, Christian, merci d'être venu dans cette émission à sa fin. C'est une petite demi-heure, mais bon, ça passe vite des fois.
C'est moi qui te remercie de l'invitation. Une demi-heure déjà?
Oui, ça passe très vite. Et on a d'ailleurs un petit peu mordu, décalé un petit peu l'horaire, mais c'est pas grave. Le principal, c'était de parler de tes ouvrages. Et donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre de Christian Richard à Collection Passion, ou au salon de Saint-Benoît à la Une au mois de novembre. Il vous dédicacera ses ouvrages avec plaisir.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup et bonne fin de journée.
C'est moi qui te remercie.
Tournez la page. Votre émission littéraire animée par Mathieu Noirot.
Eh bien, chers auditeurs, merci de votre fidélité. Tournez la page, s'achève. Je vous souhaite une très très bonne après-midi à l'écoute de REC 103.7.